Bonjour, fans de sport étudiants. Bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Bulletin sportif. Très heureux de vous accueillir encore une fois cette semaine. On approche de la fin. On est dans les derniers. Je vous prépare et je vous concocte quelques éditions spéciales avec des invités et des sujets particuliers. Mais d'ici là, on continue de suivre ce qui se passe sur les terrains dans les gymnases. Avec Denzel Carigueya et Tristan Mac, on va revenir sur le premier match de la finale de hockey collégial masculin qui, évidemment, on suit depuis le début entre André Laurendeau et Sorel Tracy. On revient là-dessus dans quelques minutes. Je vous mentionne absolument ce qui s'est passé au championnat avec un S provinciaux de basket et de volleyball division 2 en basket féminin. Les Aigles d'Onsic qui ont battu les Blues de Dawson en finale 66-46. Chicoutimi qui termine au troisième rang avec une victoire de 51-40 contre l'Outaouais. Basket masculin, c'est les Dynamiques de Sainte-Foy à Sainte-Foy qui l'ont fait devant leurs partisans. Une grosse victoire en prolongation 71-67 sur les Cougars de Champlain de Knoxville. Tout un match, beaucoup d'émotions dans ce match-là. Plusieurs articles qui ont été écrits. D'ailleurs, pour les journaux locaux, vous avez eu la chance d'aller lire ça. Franchement, il y a des belles histoires autour de tout ça. Dawson, chez les gars qui a remporté le bronze, victoire 78-70 contre Vanier. Volleyball féminin. Les élans de Garneau l'ont emporté face aux volontaires de Sherbrooke. Une victoire 25-21, 23-25, 15-10. Donc, il a fallu y aller au troisième set. Victoire, donc, je le répète, des élans de Garneau. Les Géants de Saint-Jean terminent avec la médaille de bronze. Une victoire contre les Nordiques de Lionel Groulx. On sait qu'en D1 chez les filles, les Nordiques de Lionel Groulx ont été championnes provinciales. En D2, les Nordiques avaient gagné le championnat de la conférence sud-ouest, mais elles terminent quatrième du championnat provincial. Et enfin, volleyball masculin, ben si au basket féminin, c'est les Aigles d'Onsic. Au volleyball masculin aussi, les Aigles d'Onsic qui ramènent une médaille d'or des championnats provinciaux D2. Victoire en deux manches contre les Titans de Limoilou. Si je vous disais que les Nordiques ont gagné chez les filles, ben les Titans ont gagné en D1 chez les gars. Donc, les Titans de Limoilou en volleyball, très, très, très grosse saison. Juste à mentionner, les Aigles d'Onsic en passant n'ont perdu aucune manche lors du tournoi provincial, du championnat provincial. Bref, chapeau à cette équipe-là. Diablos de Trois-Rivières qui ont pris le troisième rang de victoire face aux Vikings de Maisonneuve, mon ancienne équipe, du temps où je jouais et du temps où c'était D1 et du temps où, bref, j'étais plus en forme. Mais bref, tout ça pour dire que... J'avais un petit espoir que les Vikings aillent chercher quelque chose là. Ceci dit, très bien fait. Ils ont très, très, très bien fait. Il faut saluer tout le monde, saluer les efforts, saluer aussi, évidemment, les organisations qui s'occupent de s'assurer que les étudiants athlètes, les entraîneurs passent de bons moments là. Bref, chapeau aux différentes équipes qui ont participé. Évidemment, aussi un coup de chapeau particulier aux médaillés et l'équipe championne. Je termine tout ça en vous invitant fortement à rester jusqu'à la fin parce que cette semaine, je reçois à l'entrevue de la semaine un joueur de football qui a marqué fortement les 5-6 dernières années du football collégial et universitaire québécois. Je parle du receveur de passe du Rouge et Or de l'Université Laval, Kevin Mittal, qui se prépare à être repêché par la Ligue canadienne de football. Grosse entrevue d'une heure avec Mittal. Manquez pas ça, sincèrement, du bonbon. Il répond à toutes les questions. Je me suis permis d'en poser quelques-unes qui sont particulièrement un peu plus crunchy que d'habitude. Le personnage en valait la peine. J'en ai profité pour le cuisiner sur certaines choses qui ont marqué sa carrière, notamment. Mais aussi, essayer de savoir son opinion sur différents éléments. Donc, écoutez, je ne peux pas faire autrement que de vous inviter à y rester et surtout écouter tout ça. Mais d'abord et avant tout, l'analyse de Denzel et Tristan du premier match de la finale collégiale masculin D1 en hockey. Alors, OK, masculin, on a amorcé la grande finale entre le boomerang d'André Laurendeau et les rebelles de Sorel Tracy. Premier match qui est déjà passé, ça finit 4-3 à l'avantage du boomerang. Je vais vous laisser me faire votre analyse, mais
mon premier abord, ça a beau finir 4-3 avec un but en troisième période de Samuel Dion pour trancher le débat. À mon avis, c'était moins serré que ça. Le Boomerang a été la meilleure équipe. Donc, au final, victoire très méritée par l'équipe d'Alexandre Dandonneau. Tristan, qu'est-ce que tu en as pensé?
Écoute, en première période, j'ai senti beaucoup de nervosité chez les joueurs du Boomerang. Juste pour vous donner une idée un peu là, de l'ambiance, de comment que c'était dans l'équipe, dans le vestiaire, c'était silence radio avant le match. Tout le monde, il ne faut pas l'oublier, le Boomerang, il y a une jeune équipe cette année, là, beaucoup de jeunes, il y en a que c'est leur première finale à vie dans le collégial, donc il y avait un certain niveau de nervosité en première période. Ça s'est estompé par la suite là, après le premier but et on a vu là, en première période que c'était deux équipes qui s'étudiaient, soit les Rebelles et le Boomerang. Et par la suite, en deuxième, le Boomerang a fait preuve de caractère, tiré de l'arrière 0-2, mais a trouvé le moyen justement là, de remplir le fond du filet grâce à des vétérans comme nous, Olivier Charland, Lucas Sauvé. Charland, c'était en avantage numérique. Sauvé, on pourrait quasiment dire que c'était aussi en avantage numérique. Le joueur venait de sortir et le jeu était encore dans la zone offensive des Rebelles pendant que le Boomerang bourdonnait dans le territoire de la formation d'Éric Messier. Et par la suite, là, Côté a inscrit un but, Quinton. Donc, vraiment, du côté du Boomerang, c'est vraiment à partir du moment où est-ce que l'équipe a marqué son premier but que le niveau de nervosité est tombé. Et par la suite, l'équipe d'André Laurando a été en mesure de s'imposer. Il faut aussi donner crédit au gardien de but Mathis Tessier, là, particulièrement en troisième période. Il a été excellent à bloquer des tirs clés des joueurs des Rebelles. Et l'indiscipline des Rebelles leur aura fait mal. Le Boomerang qui a marqué 3 buts en avantage numérique. Et les Rebelles qui n'en ont marqué qu'un seul, seulement 4 punitions de chaque côté. Je n'ai pas senti un très gros jeu physique de part et d'autre dans ce premier match. C'était vraiment du hockey de séries éliminatoires, serré, structuré. Et j'ai bien hâte de voir la suite. Mais une chose est certaine, si les gens ont l'occasion de revoir le but de Samuel Dion, c'était un but de toute beauté, partie supérieure du filet. Il patinait hors l'aile, il a vaincu Justin Roux dans le haut de sa cage. Alors, c'est toute une. C'est des séries éliminatoires tout à fait spéciales pour Samuel Dion actuellement, messieurs. Là. S'il y avait un trophée Conn Smythe dans la Ligue de hockey collégiale, on pourrait facilement lui remettre le titre. 11 points en 10 matchs, 9 buts depuis le début des séries. C'est sans rien enlever aux autres. Joueurs qui participent en série, là, ils font tout un travail. Je pense notamment à Pilon et Marcotte, qui sont ses compagnons de trio, qui jouent très bien, les défenseurs aussi. Mais Samuel Dion, depuis le début des séries, là, absolument fantastique, marque des buts à des moments clés et il joue de brillante façon depuis le début des séries éliminatoires.
Ah, clairement, clairement. Denzel, comment tu as vu ça?
De mon côté, je pense que Tristan et moi, on en avait parlé. On savait que les unités spéciales allaient être vraiment importantes. Puis, lorsqu'on regarde le portrait avec le fait que Samuel Kimmerly et Paul Slivka étaient absents pour l'avantage numérique du Boomerang, j'avais hâte de voir qui allait se lever pour prendre en charge l'attaque massive d'Alexandre Dandonneau. Faut dire qu'on a eu un avantage numérique très tôt dans la partie, en à peine 2 minutes suite à l'infraction qui a été donnée aux Rebelles. On a vu un peu de jeu brouillon, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est dit durant la première entracte, parce qu'en deuxième période, tout a semblé rentrer en ordre. On a vu des joueurs qui ont été en mesure de bien se trouver sur la patinoire. Puis il faut dire que le Boomerang a quand même un taux d'efficacité qui frôle le 40%. On parle de 39,13% d'efficacité depuis le début des séries éliminatoires. C'est quand même exceptionnel quand on y pense que le Boomerang est toujours en mesure, peu importe l'adversaire, de trouver la manière de marquer les buts. Puis défensivement, on aura limité les Rebelles à très peu de chances de marquer, j'ai envie de dire. On sait que c'est une équipe qui est explosive, qui nous a habitués à avoir beaucoup de facilité à se générer des chances de marquer, mais j'ai envie de dire que le Boomerang a été excellent. Le premier but qui provient d'une mise en jeu qui a été remportée en fin de première période. Je pense qu'il faut donner du crédit aux rebelles qui ont été en mesure de trouver une manière de marquer le premier but, d'embarquer la foule dans le match. On savait que l'avantage de la glace allait être important dans ces séries-là. Puis on l'a perçu en début de match, étant donné qu'on a vu le boomerang un peu plus, j'ai envie de dire, stressé d'appréhender cette première partie de la ronde de finale. Mais pour en conclure sur ce match-là, je pense que ça donne le ton sur une série qui va être intéressante. Il y a des joueurs qui ont été en mesure d'encore une fois jouer leur rôle. Samuel Dion, quelle acquisition en provenance des riverains du Collège Charlemagne. On ne cesse de l'encenser, mais il a été excellent encore une fois. Mais j'ai envie de lever mon chapeau, comme Tristan l'a mentionné, à Mathis Tessier, un gardien recrue de 17 ans qui continue sur cette lancée. On a un beau duel de gardien de but avec Justin Roux qui lui aussi en est à sa première saison dans la Ligue collégiale. Il y a d'excellents talents sur la surface glacée et j'ai hâte de voir comment la série va se développer. On sent que les rebelles ont peut-être connu le même genre de début de série que face aux Lions du Cégep Champlain-Saint-Laurent. Ça a été un peu plus difficile dans les deux premiers matchs, mais j'ai envie de voir comment on va vouloir rebondir. On s'en va à André Laurando samedi pour ce match numéro 2. Puis je pense que la formation d'Éric Messier voudra bien rebondir puis surtout faire jouer tout le monde parce qu'il y a des joueurs qui jouent beaucoup de minutes dans cette formation-là.
Ben Denzel, tu mets le doigt sur certains éléments qui moi-même m'ont marqué, là, façon de parler. Puis je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, le temps de jeu. Je n'ai pas les minutes exactes, ce n'est pas écrit, mais écoute... Moi, Léo Saint-Michel, Donovan Côté, ces gars-là sont capables d'en donner énormément. Et en fin de match, oui, leur talent fait en sorte qu'ils sont capables de déjouer un premier gars, mais tu le vois dans la façon dont les joueurs bougent leurs pieds. Et ça ne bougeait plus, ces pieds-là, à la fin du match. Il n'y avait plus d'énergie. Puis je veux donner le crédit au Boomerang, la défensive, qui a fait un travail extraordinaire tout le long du match, très solide. Mais j'ai eu l'impression que tout le long de la partie, il y avait un manque d'énergie de la part des attaquants des rebelles. On tentait, on avait une, en tout cas, mon impression d'amateur, j'avais l'impression de voir souvent les joueurs des rebelles essayer de vouloir mettre la rondelle derrière les défenseurs du boomerang, espérer utiliser leur vitesse pour aller chercher ces rondelles-là parce qu'ils n'allaient pas nécessairement gagner des batailles physiques. On sait comment peuvent être costauds les joueurs du boomerang, mais souvent, justement, quand on joue contre des équipes costaudes, on veut profiter de la vitesse. Puis ça semblait dessiné comme ça, sauf qu'à chaque fois, c'était les joueurs du boomerang qui arrivaient loin en avant, premiers sur la rondelle. La stratégie était là, la tactique semblait là, mais l'exécution n'était pas là. Et oui, ça, c'était 2-0 à un moment donné dans le match, mais bon, c'est un but de l'ami qui... À mon avis, l'ami a été de loin le meilleur joueur là, de Sorel. Je pense qu'il faut le donner. Mais donc, c'était mérité. Mais après ça, le but d'Arpin dès le début de la deuxième période, la rondelle semble dévier sur Sidibé. Je pense que c'était Sidibé qui était là. Mais la rondelle semble dévier, mais n'empêche. Le but est là, fait que c'est 2-0. Malgré ça, je n'ai pas l'impression que c'était les rebelles qui étaient en contrôle du match. Puis, tu en as parlé, Tristan, le début de match, on s'étudiait. Surtout la première moitié de la première période, où est-ce que vraiment il ne s'est rien passé offensivement, ni d'un bord ni de l'autre. Là, à un moment donné, bon, tu as eu Louis-Olivier Charland qui a eu une chance, Sidibé a eu une chance, Tessier qui est obligé de faire un très gros arrêt sur l'ami avant que l'ami aille marquer, mais cette première période-là, effectivement, a peut-être fait chasser la nervosité d'un côté comme de l'autre. Mais parce que les rebelles ont pris les devants, on aurait pu penser, OK, les rebelles prennent le contrôle. Non, ce n'est pas ce qui est arrivé, ce n'est pas l'impression qu'on avait malgré tout. Et parce que les joueurs du boomerang ont continué de travailler, ont continué d'être plus structurés dans leur jeu. J'avais l'impression de voir, OK, on joue de telle manière, puis on arrive à le faire, puis on reste malgré tout assez calme. J'avais pas l'impression qu'il y avait une perte de contrôle, en tout cas au niveau émotif. On reste calme, on reste dans notre jeu. Puis quand Charlin est allé marquer le but en avantage numérique, qui d'ailleurs, Charlin a joué quel match, quelle bougie d'allumage, hein? Ouais. Mais quand il est allé marquer son but, là, j'ai eu l'impression, OK, le boomerang est correct, puis elle va pouvoir continuer à jouer. Et malgré tout, mon impression, puis je le dis, malgré le pointage, j'ai l'impression que les rebelles ont été un coup en arrière tout le long de ce match-là. Bref, s'ils ne retrouvent pas un certain regain d'énergie, s'ils ne trouvent pas une façon, puis je vais leur souhaiter que la semaine leur ait permis de se reposer à tous ces joueurs-là, parce que le 4-3 aurait pu être un 6-2 sans pas tant pour les chances de marquer, mais à cause de l'intensité, à cause du contrôle du jeu, j'avais l'impression que le boomerang avait vraiment le contrôle. Malgré tout, Les Rebelles ont tellement de talent qu'ils sont en plein de gens d'équipe qui, malgré le fait qu'ils peuvent être des grands bouts du match à ne pas être en contrôle, ils sont capables de marquer 2-3 buts en l'espace de 2 minutes puis revenir dans un match. Donc, c'est loin d'être fini, c'est pas ça. Mais la façon dont ça s'est passé, j'ai été un peu déçu de ce que les Rebelles ont donné comme exécution dans cette partie si importante. Il y a de la nervosité de leur côté aussi, ça c'est sûr et certain, mais c'est vraiment là l'impression d'énergie. J'avais l'impression qu'il y avait tellement un écart entre l'énergie que les deux équipes étaient capables de donner. Ça a été marquant à mon avis.
Certainement. Je ne sais pas si on traîne une certaine fatigue de la série précédente, étant donné que quand même tout s'enchaîne très vite, mais il faut dire que vraiment le niveau d'énergie, puis surtout le niveau d'engagement du côté de Sorel était peut-être un cran un peu plus bas de ce qu'on a été habitué depuis le début de la saison. Il reste qu'on va avoir la semaine, comme tu l'as mentionné, de bien se préparer, de surtout se reposer, puis de retrouver cet esprit-là, de vouloir vaincre le Boomerang. C'est une rivalité naturelle entre ces deux formations-là, puis j'ai hâte de voir comment le tout va se développer. Il faut dire qu'on a eu une excellente chance en début de match. Je ne sais pas si Léo Saint-Michel est en mesure de marquer en échappé en désavantage numérique. Ça leur aurait permis aux Rebelles de vraiment mieux entamer cette partie-là. Mais est-ce que la série va encore se jouer sur plusieurs matchs? On vient de perdre la première partie, mais la bataille n'est pas perdue.
Oh, loin de là.
Il ne faut pas oublier non plus du côté des Rebelles qu'il manque Hugo Vézina fusé à l'appel. C'est une lourde perte pour les Rebelles parce que c'est un élément fort important à l'attaque pour l'équipe d'Éric Messier. Ça débalance un peu son top 6, étant donné que Donovan Côté et Prebzel se retrouvent avec Léo Saint-Michel. Et tu as Lamy qui se retrouve, là, si je ne me trompe pas, avec Arsenault Renan et Laet ou un autre joueur, là, peu importe. Donc, ça débalance un peu. du côté du Boomerang, on sait que la formation d'Alexandre Andonneau n'a perdu qu'une seule fois à domicile depuis le début des séries. Et c'était le match 3 contre les Dragons du Collège La Flèche. C'est une forteresse, le Centre Gadebois, pour le Boomerang. Et une chose est certaine, la formation d'Alexandre Andonneau voudra plaire à ses partisans.
Oui, en effet, comme Tristan, tu dis, le Centre Gadebois va être un lieu qui va être difficile là, pour les Rebelles parce que après cette première victoire-là, il y a une intensité, veut pas, qui va remonter. La chance d'aller mettre ça 2-0, d'acculer rapidement au pied du mur les Rebelles, je pense que ça va créer aussi de l'émotion, probablement même dès le début du match. Puis une équipe qui carbure à l'émotion comme ça, une équipe qui est capable justement de s'imposer physiquement comme le Boomerang, bien, si l'énergie est positive, évidemment, comme toujours, il faut la contrôler, mais si cette énergie-là positive permet de créer un rythme dès le début, ça peut être très avantageux. Oui, ça va être à suivre. Ça va être à suivre, cet aspect-là.
Puis tu sais, il ne faut pas l'oublier non plus. Et je sais que je reviens souvent sur les détails de l'amphithéâtre, mais c'est tellement la réalité, là. Puis les joueurs, ils vont vous le dire. Colisée Cardin, magnifique amphithéâtre en passant, là. 3000 sièges. Puis il y avait à peu près une foule, on parle, l'organisation des Rebelles a estimé environ 900 personnes dans l'amphithéâtre. Dans un amphithéâtre qui accueille 3000 sièges, donc il y a quand même un bon 2500 sièges qui est vide, là. Tu avais une foule d'un côté, du côté du Boomerang, et la foule de l'autre, qui se retrouvait en arrière du banc des Rebelles et un petit peu à côté, à gauche et à droite. Du côté du Centre Gadebois, tous les partisans sont du même bord. Les deux bancs sont un à côté de l'autre. Donc, c'est sûr et certain que côté émotion, il va en avoir un peu plus parce que les partisans, veut pas, sont plus proches de la glace, sont seulement d'un côté. C'est un plus petit amphithéâtre, donc ça va faire encore plus de bruit. Je pense que ça va être important autant pour la formation d'Éric Messier que celle d'Alexandre Andonneau de bien commencer le match de donner le ton. Et je pense que ce qui va être important, ça va être les 10 premières minutes du match, marquer le premier but, aller chercher du momentum, générer de l'offensive et trouver une manière de faire en sorte que ça se termine à la régulière et en faveur d'une équipe. parce que je pense que si ça s'en va en prolongation, ça va être encore plus difficile pour les deux formations, surtout qu'on sait que ce sont deux équipes là, qui sont capables de générer de l'offensive. Une équipe qui est peut-être mieux bâtie pour les séries, je dirais, côté énergétique, côté force physique, et de l'autre, qui est une équipe qui a plus de talent et qui est plus expérimentée côté moyenne d'âge et nombre de matchs joués dans la Ligue collégiale des 1.
Denzel, je ne sais pas comment tu vois ça, c'est justement ce prochain match-là. Quelles sont les clés pour toi là, pour les deux équipes?
Je pense que, comme Tristan l'a mentionné, de bien gérer nos émotions. On sait que c'est un enjeu qui est important en séries éliminatoires. Et l'aspect qu'a amené Tristan au niveau de l'amphithéâtre du Cégep André Laurando, je pense que c'est important de le rappeler pour avoir fait quand même le tour de certaines arénas dans la Ligue collégiale. Je pense qu'il y a des complexes qui permettent d'avoir une meilleure ambiance. On n'a qu'à penser à Lennoxville avec l'amphithéâtre avec des estrades d'un seul côté. C'est un peu la même chose au centre Gadebois puis au complexe Branche-Aubrière d'avoir quand même un gros amphithéâtre avec de nombreux sièges à combler. Ça peut être un aspect qui peut venir jouer dans la manière dont l'émotion va être jouée sur la surface glacée, étant donné que tout est prêt. Mais pour moi, je pense que qu'est-ce qu'il faudra surveiller? C'est la manière dont on va vouloir utiliser notre groupe d'attaquants du côté des rebelles. On se doit de vouloir embarquer tout le monde dans le match rapidement et ce, en faisant jouer tous nos trios pour leur permettre eux aussi de goûter à la glace, puis surtout leur mettre en jambes et les mettre dans l'idée qu'aujourd'hui, c'est un match qui va être important dans cette série-là, parce que c'est un point de bascule. Si André Laurando est en mesure d'aller chercher cette victoire-là, on est quand même à 2-0, mais si les rebelles de leur côté sont en mesure de niveler les chances, la série va être encore longue. Donc, c'est un match point de bascule et je m'attends à une grosse performance des joueurs important dans ces deux équipes-là. Un joueur comme Samuel Dion voudra continuer sur sa lancée. Un joueur comme Léo Saint-Michel voudra lui aussi faire parler son talent face au boomerang. Je pense que ça va être un match très important et j'ai hâte de voir la manière dont le tout va se dérouler parce que je sais que l'ambiance va être incroyable au centre Gadebois.
Puis tu sais, on parle aussi de Lou Olivier Charland. On sait que Charland s'était blessé dans les séries précédentes, là. Et c'est un élément fort important. Et Lou Olivier, lorsqu'il est en pleine confiance, est en contrôle de ses moyens, il peut faire la différence dans un match. La force du boomerang, c'est l'équilibre au niveau de l'offensive. Autant le quatrième trio peut aller chercher des possessions de rondelles, générer un bon échec avant pour s'imposer offensivement, pour faire en sorte qu'après ça, le premier trio ou les autres unités soit en mesure de produire à l'attaque. Et on parle aussi d'un niveau d'engagement qui est élevé. Les rebelles se devront d'être en mesure d'élever leur niveau de jeu et leur niveau d'engagement. On l'a fait contre les Lions du Cégep Champlain et Saint-Laurent. Beaucoup de tirs bloqués, les genoux au sol pour bloquer des rondelles, des lignes de passe et tout ça. Les rebelles se devront d'être dans la mesure de jouer dans l'identité rebelle de Sorel Tracy, c'est-à-dire une équipe qui est fatigante à affronter, une équipe qui joue bien défensivement et qui a un niveau d'engagement élevé. Ça va être ça l'important du côté de la formation sorelloise.
Non, je suis d'accord avec toi, Tristan. Tu sais, si les rebelles veulent gagner un championnat, ils doivent accoter le niveau d'engagement du boomerang parce que c'est pas. Ou, tu sais, on dit engagement, des fois c'est difficile à mesurer, surtout de loin parce qu'on n'est pas dans le vestiaire nécessairement. L'engagement, des fois, est là, mais l'énergie ne l'est pas. Fait que c'est pas. Je veux pas me mettre dans la tête de ces joueurs-là, mais en fait, d'exécution, ce qu'on a vu, on avait l'impression que le niveau n'était pas le même. Donc, il va falloir égaler ça si on veut se donner une chance. Moi, j'aimerais finir en parlant d'un gars qu'on a à peu près jamais mentionné cette année, c'est Ibrahim Sidibé. J'ai trouvé son match tellement impressionnant, tu sais, pas au sens où justement les chances de marquer à l'infini et tout, mais quel joueur efficace qui a réussi à faire des jeux vraiment importants, puis en désavantage numérique, son apport est essentiel, mais non seulement ça, des moments clés où il jouait avec Charland et Francœur. et qui permettent des choses qu'il arrive à faire, qui permettent à Charlin Francœur d'avoir de la place sur la patinoire. C'est un costaud, ça. C'est un 6 pieds 5, 220 livres. Et c'est un gars, comme je dis, dont on parle très peu parce que les chiffres ne sont pas à côté. Son nom n'est pas souvent sur la feuille de pointage. Mais franchement, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié son match en fin de semaine passée.
Et c'est un joueur qui est très athlétique aussi. Pour un gabarit de 6 pieds 5, 220 livres, ce qu'on appelle des armoires à glace pour des petits gars de 5 pieds 5 qui n'ont pas le choix de lever leur menton pour leur parler. Tu sais, Ibrahim, il patine très bien en plus pour un gars de son gabarit physique. Et on n'en voit pas souvent des joueurs qui ont un bon patin et qui s'imposent autant physiquement. Quand Ibrahim Sidimé se met à frapper comme un train, je peux vous confirmer que les joueurs adverses n'aiment pas ça et ils savent qu'ils ont perdu la rondelle le long de la rampe, justement parce que Ibrahim est efficace pour gagner ces rondelles-là, pour générer de l'espace. En termes d'identité de joueur, là, c'est un peu comme un Josh Anderson. Il a un bon patin, il est en mesure de s'imposer physiquement, travaille fort, va aller chercher des rondelles qui sont importantes en fond de zone. Alors, tu fais très bien de le mentionner, justement, Ibrahim Sidibé. Faut pas oublier non plus, du côté des rebelles, un joueur comme Rémi Couture qui
a
minutes et des minutes et des minutes de hockey, match après match, qui affronte les meilleurs joueurs adverses, qui trouve le moyen de bien défendre son territoire. C'est un joueur tellement important du côté de la défensive des rebelles. Je pense à Couture et je pense à Arpin aussi, deux défenseurs importants du côté des rebelles qui font tout un travail. Et en parlant de défenseurs du côté du Boomerang, faut pas négliger la part d'Esteban 5-Mars et de Zachary Baumhauer, un jeune duo de défenseurs de 17 ans qui travaille très bien. 5-Mars, un peu plus offensif, Baumhauer, un peu plus effacé, mais travaille très bien dans sa zone. Les deux ont joué ensemble du côté des dynamiques du Collège Charlemagne au niveau M18, Division 1. Et juste pour vous mentionner à quel point Esteban 5-Mars a progressé dans la dernière année, à peu près aucune équipe ne l'avait approché à pareille date ou au mois de février-mars 2023. Et là, actuellement, il se retrouve dans une brigade défensive qui est en finale de championnat collégial Division 1. C'est vraiment là toute une histoire. Puis on peut en parler à la tonne de ces histoires-là qu'on voit à travers le collégial. On pourrait en nommer du côté des Filons, comme on peut en nommer du côté des Rebelles et des Dragons. Ça donne que là, la finale est entre le Boomerang et les Rebelles. Et on fait bien d'en parler justement. De ces belles histoires-là, des jeunes qui arrivent dans la Ligue, qu'à peu près personne ne connaît et qui sont en train de briller de la bonne manière et de manière positive dans le circuit.
Absolument, absolument. Fait que prochain match, samedi à 19h30 à Silvio Manta. Et tout de suite, on joue le lendemain, le dimanche, à Cardin. Donc, ça aussi, ça va être intéressant parce que victoire-défaite, peu importe qui l'a, samedi, de jouer déjà le lendemain après-midi, ça aussi, ça va être intéressant de suivre quel impact ça a. C'est je pense que ça rajoute à l'importance pour les rebelles d'aller chercher ce deuxième match-là. On l'a dit, on questionne le niveau d'énergie que certains des joueurs ont rendu à la fin de la saison comme ça. Si on n'est pas capable de trouver notre énergie, c'est pas dimanche que ça va être plus facile, du moins à suivre. Mais bon, on l'a dit, il y a une semaine de congé entre les deux, fait que peut-être que les joueurs clés des rebelles vont avoir retrouvé tout ce qu'ils ont besoin pour exceller. J'en doute pas. Ils ont les moyens, du moins, le talent est là, la question se pose pas. Fait que ça va être assurément très intéressant.
Exact. Alors, je pense que ça va être un enjeu aussi. Deux matchs collés. Là. On parle d'un match à 19h30 le samedi, 16h le lendemain. C'est même pas 24 heures entre les deux. Donc, le niveau de récupération, d'hydratation et tout ça, ça va être des éléments clés là, pour les deux équipes. Alors, bien hâte de suivre le tout, messieurs.
Et à ne pas négliger le retour de Paul Slivka dans la formation du boomerang. Je pense que ça va venir donner un gros coup de main au boomerang dans ce programme double à venir. Je pense que ça va être un joueur qui pourrait lui aussi faire la différence. Un joueur qui joue beaucoup de minutes dans la brigade défensive d'Alexandre Dandenault. Est-ce qu'on sait si Samuel Kemmerly sera de la partie?
On ne sait pas encore. On va le voir s'il est sur la glace.
Tandis que Hugo Vizina-Fugé du côté de Sorel, là, je pense que ça semble être assez sérieux son cas. Là, fait que je serais surpris qu'on le retrouve.
On n'ira pas dans les détails, disons-le comme ça.
Non, mais c'est correct, puis c'est pas le point. De toute façon, personnellement, je ne suis pas au courant des détails. Je sais juste que ceux qui peuvent se poser la question, là, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à son retour au jeu en finale, malheureusement pour lui. Donc, les gars, un gros, gros merci. On se reparle la semaine prochaine, puis d'ici là, ben évidemment, bien de l'eau recouler sous les ponts. On pourra se raconter tout ça. Merci encore, les boys.
Samedi, Rémi Meunier et moi-même serons à la description et commentaires de ce match. Le lendemain, nos collègues Guillaume Larivière et Richard Farley du côté de Sorel. Donc, si vous voulez suivre les matchs à L-Sport TV du côté du Boomerang, il y a évidemment la chaîne YouTube là, des Rebelles de Sorel.
Exactement. Merci beaucoup de nous rappeler tout ça, Tristan. Alors, bonne semaine, les gars, puis souhaitons-nous du bon hockey.
Bonne semaine, tout le monde.
Bye. Bonne semaine.
Entrevue de la semaine, un invité qui, pour bien du monde, n'a pas besoin de présentation, mais pour ceux qui en auraient besoin, je vais quand même le dire, on reçoit cette semaine un des gars qui a probablement le plus marqué le football québécois dans les dernières années, collégial et universitaire. Je vais le dire encore du rouge et or, parce que c'est pas fini complètement jusqu'à ce que tu sois repêché. Le receveur Kevin Mittal. Salut Kevin, très content de te recevoir.
Merci, ça va bien.
Ça va très bien, mais toi, comment ça va? Parce qu'au moment où on enregistre ça, on est à peu près une semaine du repêchage de la Ligue canadienne. Comment tu vis ça en ce moment? Comment ça se passe? Je vois que, évidemment, tu as fait le combine, tu as fait toutes ces choses-là. Je vois effectivement aussi ton nom sortir, évidemment. Les mock drafts s'amusent, fait que qui place quoi, qui où, c'est une chose. Toi, tu te sens comment à l'approche de ce moment-là?
On est à 6 jours, là. On a hâte que ça arrive. C'est comme moi, j'ai jamais trop aimé ça, me faire recruter par des équipes. Autant au niveau master, j'avais visité 2 places. Cégep, j'avais visité 2 places. J'aime ça juste arriver avec une équipe, puis faire un choix, puis que ça soit fait. Mais là, j'ai plus rien à faire, fait que j'ai juste à attendre. On attend mardi prochain, puis on est excité. Mais pour l'instant, ça va, on est relax. Mais le jour avant ou la journée même, on va être stressé, c'est sûr.
Puis le stress, il vient-tu du fait d'être repêché le plus haut possible ou par une équipe que tu as envie d'être repêché? C'est quoi ce stress-là?
C'est juste de ne pas être en contrôle de où tu t'en vas pour minimum tes 3 prochaines années. Ça peut aller comme proche de la maison, comme le plus loin. Fait que c'est juste ça, mais ça va être excitant, puis on a hâte de voir c'est où que ça va tomber.
J'ai lu un article de Guillaume Pied-de-Bœuf de Québec qui mentionnait que tu avais parlé à tout le monde sauf, je pense, les Elks d'Edmonton. C'est encore le cas? Tu as parlé à tout le monde sauf Edmonton?
Oui, encore. J'ai pas une nouvelle d'Edmonton. Je sais pas. Je pense pas qu'ils ont besoin de recevoir là, à ce moment-ci de l'année. Là. Ils en ont signé plusieurs. Fait que peut-être que juste leur besoin est vraiment ailleurs. Ou c'est autant stressant, puis je sais pas comment les voir encore parce que on n'a pas parlé. Je pense que j'ai même pas dit saluer aucun coach là-bas. Il y a comme une game qui se passe entre les entraîneurs là-bas, puis les GM. Il y en a qui te parlent, il y en a qui te parlent pas. Fait que je sais pas. Pour l'instant, silence radio pour Edmonton.
Puis les conversations, je comprends que c'est un peu touché dans le sens que n'importe qui peut te recruter. Fait que tu peux. Mais est-ce que tu as eu des coups de cœur, si on veut, pour des personnes? Parce que c'est pas tant l'organisation au complet. Ben, c'est peut-être l'organisation, mais as-tu eu des coups de cœur dans des conversations que tu as eues avec certaines équipes?
Coup de cœur de personne, je pense. Je dirais pas nécessairement en entrevue, mais vraiment juste pour son enthousiasme et qu'est-ce qui amène autour des gars. Je pense que il rentrait dans les vestiaires, puis il parlait avec les gars. C'est le GM de Toronto, là, Pinball. Je pense que c'est un bon personnage, là, très enthousiaste, puis il parlait avec tous les gars. À la fin du combine, il était en train de plier les tables, puis il ramassait les tables comme le staff de la CFL. Là, toute personne comprenait. Il avait ses deux sacs Louis Vuitton dans l'entrée à terre, puis il enlevait son manteau, puis il pliait les tables avec le staff. Fait que, ah, c'est un bon vivant à l'aéroport aussi, il parlait avec tout le monde. Fait que, je pense que j'irai avec lui. Ouais.
Si on fait un retour en arrière, on reviendra peut-être à ça, mais tu mentionnais tantôt, je trouve ça intéressant. Quand tu jouais au secondaire, tu n'aimais pas te faire recruter. Puis évidemment, comme tu le mentionnes, évidemment, que pour la suite, qu'est-ce qui t'agaçait dans l'histoire de te faire recruter? Parce que tu restais un bon joueur qui avait en masse de spotlight sur lui dans le milieu. Tu n'as pas développé ton talent il y a un an. Là. Ça fait longtemps, je pense, que tu as des bons résultats partout où tu passes. Qu'est-ce qui t'agaçait dans le recrutement?
Mais je pense que mon année secondaire 4, je pense que j'ai comme été sauvé par la cloche de mon année secondaire 5. Je pense que c'est comme le règlement a comme changé quand j'étais arrivé en secondaire 5, où je suis complètement dans le champ. Mais je sais qu'une année, je pense que c'est en secondaire 4, quand j'étais en juvénile, que c'était vraiment intense.
Ouais, les coachs avaient le droit de te parler, mais après ça, il y a eu le règlement qui faisait qu'il fallait attendre la fin de la saison de juvénile, ouais, c'est ça?
Je pense que c'est mon année secondaire 5 qui a eu comme le switch de ça. Je sais pas, juste te faire. J'aime pas me faire dire ce que je veux entendre là, de mon sens du poil pour que je vienne. Des fausses promesses, on entendait toutes sortes d'affaires là, de tous les bords, de tous les côtés là, à propos de tel coach fait ci, tel coach fait ça. J'étais un bon joueur, je voulais juste aller dans une équipe que je pouvais jouer au foot. Moi, je voulais jouer au basket en même temps, fait que je voulais une école qui pouvait m'offrir les deux. Je pense qu'il y avait Vieux-Montréal qui offrait ça. Les Géants de Saint-Jean, il y avait Lennox qui offrait ça. Puis, avec toute la vague de recrutement que Tony Adeluca est allé chercher l'année d'avant avec Notre-Dame Cactus et les Loups de Curie-Antoine Labelle, c'est là que j'ai décidé d'aller à un bon cégep, un petit cégep privé, même si c'était loin quand même de chez nous. D'essayer de faire la route à chaque jour, là, 45 minutes quasiment, pour traverser l'île de Montréal au complet. Mais il m'offrait de faire les deux, puis à un haut niveau. Fait que, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à André Grasset.
Puis tu as eu une carrière formidable à Grasset. Le duo que tu as formé avec Jonathan Sénécal, les records sont arrivés, les grandes performances. Bol d'or est arrivé. Mais suite à ça, c'est vers les États-Unis. T'es allé. T'es ouais. Allé à Syracuse. T'es resté là un an. Raconte-nous comment ça s'est passé par rapport à Syracuse, parce qu'encore une fois, si tu te fais recruter au cégep, vers le cégep, c'est une chose, mais la game à choisir son université, surtout si tu regardes vers la NCAA, là, tu sais, sky's the limit, au sens où il y a des centaines ouais. d'équipes, il y a tellement de places. Comment ça se passe pour toi à ce moment-là? Puis en plus, tu n'es pas allé jouer dans un prep school, fait que, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime en beurrer épais sur la visibilité que les prep schools te donnent. Ouais. Je pense que tu en avais en masse de visibilité pareil, mais comment ça s'est passé pour toi justement? Puis qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Syracuse?
Juste commencer au début de ce processus-là, c'était avec Tony Adeluca. Lui, il voulait qu'il nous poussait pour qu'on aille faire des camps un peu plus aux États-Unis. Il y avait toutes sortes de programmes qui amenaient les joueurs à faire des camps, puis finir. Puis moi, je voulais pas faire tout ça. J'ai eu me faire recruter. Joe est pas comme quand même assez semblable là, comme personnalité que moi. Il parle un peu moins là, sur le terrain, mais...
Ouais, on y revient. Là.
Côté recrutement, puis toutes ces affaires-là, de se faire parler, on n'aime pas trop ça. Fait que... Une fin de semaine à l'été, il nous a amenés, on a embarqué dans son auto, moi puis Joe, on nous a amenés avec, je pense que la première été, il y avait Axel aussi, puis Samuel Makwanda. Puis Joe, je pense qu'il était encore au secondaire, on ne l'avait même pas, là, mais en tout cas, il avait embarqué, puis on avait été là-bas, on avait bien fait. L'été d'après, on avait retourné, il nous avait bien aimés. Puis au spring camp, je pense... Après ma deuxième saison, qui serait la première à Joe, avant la troisième, avant 2018, il y a eu quand même beaucoup d'intérêt. Là. Je pense qu'il y avait comme 6 équipes NCAA qui s'était présenté parce qu'il faisait comme le tour des cégeps là, à Vanier, à Vieux-Montréal et tout. Puis là, il a commencé à avoir de l'intérêt. Pour ma part, il y a eu comme... Il y avait beaucoup d'offres pour jouer linebacker. Pour, je ne sais pas d'où ça sortait. Là. Il voulait me voir à linebacker. J'ai même fait un workout dans le gym à Grasset pour voir si j'étais capable de bouger comme linebacker. Mais je n'avais jamais fait de shuffle là, dans une boîte. Puis avec des drills que je connais zéro.
Mais c'est à cause de ta shape qu'il te disait d'essayer ça. Il voyait... parce qu'on on peut en parler, ben peut-être on peut ouvrir la parenthèse. Il y a beaucoup de monde qui vont mentionner ça. Kevin Mittal, comment il va transposer sa game chez les pros, mettons, à cause que tu n'es pas un gars de 6 pieds 4, tu es un gars de 6 pieds 1, mais tu n'es pas un 5 et 9 non plus, tu as une bonne grandeur, mais tu es costaud aussi. Ouais. Des fois, tu as des gars de 6 pieds 3 qui pèsent 200 livres, toi, tu es 6-1, 220. Fait que je pense qu'il y a comme un élément aussi de shape peut-être
Ça me fait rire parce que c'est tout le temps la même discussion depuis que j'ai commencé à jouer à savoir en secondaire 3. Sur la 3, c'était correct, mais mettons sur la 4, 5, c'était comme là, il commence à être trop gros pour jouer receveur. Au CGF, je me le faisais dire, tu sais, pas mes coachs, mais comme tout ce que j'entendais à Team Québec, puis tout là, tu commences à être gros pour être receveur, peut-être aller running back, des affaires même, ou aller en defense. Mais comme ça me suit, puis comme sur la 4, puis là, je suis rendu que je vais jouer pro, puis c'est encore la même discussion. Mais à tous les niveaux, j'ai prouvé que je pouvais jouer cette position-là. Je sais pas pourquoi c'est encore une discussion, j'ai mis clair que je peux jouer receveur, puis moi, ça me fait je vais rester receveur, puis c'est juste, je sais pas, ça a tout le temps été comme, ça fait longtemps que le monde me parle de mon poids puis de ma grandeur, mais comme, si je pense que je suis capable de jouer, il devrait pas avoir de problème.
Ben, c'est intéressant parce que ça prouve que le monde puis tu sais, il y a des bons coachs, je te l'ai parlé, là, à Team Québec, puis à des bons niveaux. Fait que tu sais, c'est pas des coachs qui n'ont pas vu ou un observateur juste pour le fun qui te lance ça. C'est beaucoup de monde qui s'arrête à la shape d'un gars pour savoir où le placer. Puis c'est intéressant quand même de voir qu'il y a quand même ces schémas de pensée-là chez bien du monde.
Ben oui,
puis d'aller au-delà du skill comme tel, parce que tu attrapes les ballons que tu cours avec, puis t'es fait tes routes, là.
C'est ça, je me disais, puis depuis, je pense, cégep, la seule personne qu'on dirait qu'on avait vu, je ne sais pas si c'est au Québec, si on peut dire ça comme ça, mais qu'on avait vu à cette shape-là puis performer, c'était Régis Sibassou à Montréal. Mm-hmm. J'étais constamment comparé à lui. Puis regarde, là, aujourd'hui, il est rendu à quoi, sa 5e-6e année à CFL. Fait que pour l'instant, le niveau, il va bien.
Il est encore en attaque.
Ouais, c'est ça.
Fait que Syracuse, eux autres, t'as fini par décider d'aller là. Est-ce que, justement, tu sais, est-ce que c'est un processus que t'as décidé, bon, Syracuse t'a donné ce que tu voulais, t'offrait ce que tu voulais, puis rapidement, un peu, tu me mentionnais Jonathan Sénécal, t'es un peu comme toi, tu sais, je me rappelle que Jonathan, quand il avait pris sa décision, c'était « je veux régler ça au plus vite ouais. ». Il avait trouvé une bonne place, puis il a dit « ok, je vais aller là ». Est-ce que c'était un peu cette même approche-là? T'avais pas le goût de commencer à parler aux 6 équipes, une après l'autre, puis…
Ben, oui, mais tu sais, j'ai jamais fait une official visit. Il y a plein de gars qui se promènent, ils vont faire toutes les visites, puis ils payent tout, puis ils montrent tout comment c'est extravagant, les installations, puis ils t'amènent voir une game de basket. On voulait pas ça du tout. Moi, Syracuse, en fait, le penchant, c'était vraiment, il y avait des Québécois. On restait proche de la maison quand même. T'sais, c'est de où j'habitais, sur la rive sud de Montréal, c'était vraiment 4h15. Puis ils me laissaient en offense. Ils ne savaient pas encore ma place dans leur système offensif. Ils me voyaient comme receveur jusqu'à preuve du contrat. Mais sinon, ils me parlaient un peu plus de tight end, running back. Mais je restais du côté de l'offense. Fait que moi, c'est quelque chose que je voulais absolument. Puis ouais, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à Syracuse.
Ça s'est passé comment là-bas? Parce que tu as passé un an, tu es revenu ici. Ça s'est passé comment ton expérience NCAA?
Ça s'est bien passé là, dans l'ensemble, là, côté football. Si je pense, tu sais, on dit un an que je suis resté, mais en vrai, je suis resté, je pense, même pas 6 mois. J'ai fait la première session d'automne, la saison de foot. Après ça, on est revenu, puis en mars, il y a eu la COVID, il y a eu le spring camp. Fait que tout a déboulé à partir de là. Mais côté football, ça a bien été. Moi, j'étais arrivé vers la fin à août, vu qu'on avait un problème de comme, traduction de notes du cégep à NCAA. Fait qu'on était vraiment avec le bureau de la NCAA pour me rendre éligible. J'étais arrivé peut-être une semaine avant le week one, fait qu'on a décidé de redshirt, que c'était la meilleure décision pour pas que je perde une année complète. École, ça a bien été. Moi, c'était vraiment plus, c'était la première fois que je sortais de chez nous, je parlais zéro anglais, culture complètement différente. J'ai manqué le rookie camp au complet, fait que moi, j'étais loin dans le playbook. Je connaissais zéro les gars. Mais ouais, puis je pense que c'est à l'hiver. C'est à l'hiver, j'étais avec mon ex-copine, puis mes parents. Puis, oh, je sais pas si ça va être un fit pour les 5 prochaines années là-bas. Tu sais, quand eux, ils jouaient away, nous, on restait sur le campus. Fait que moi, je descendais tout de suite chez nous. C'était 4 heures. Je le faisais direct. Je revenais le dimanche. Puis là, il y a ma directrice académique. Je n'ai pas nommé de nom. Je ne veux pas qu'elle perde sa job. elle me dit, tu retournes souvent chez vous. Genre, t'aimes-tu ça ici? T'es-tu confortable? Genre, il faut que tu sois à quelque part. Que comme, tu vas être confortable. Pas t'épanouir, mais que tu vas être heureux. Puis tu vas... Ouais. Tu veux enjoy, c'est la dernière fois que tu as la chance de choisir où tu peux aller, parce que quand c'est professionnel, on décide plus grand-chose. Elle dit comme, prends les choix genre pour toi, pense pas aux autres. Fait que c'est resté dans ma tête, on est resté après les fêtes. On a eu le premier spring camp, ça a vraiment bien été comme receveur, j'ai vraiment bien fait. Puis là, il y a eu le COVID. On est parti à la maison. Là, on ne pouvait plus retourner pendant 2 semaines. Après, on a étiré ça, je pense, 2-3 semaines. Après ça, mais semble on pouvait retourner, mais les étudiants internationaux ne pouvaient pas y aller.
C'était compliqué.
Fait que c'était compliqué. Fait que là, durant tout ce processus-là, là, de mars à mai, juin-ish, je pensais à ça. Nous, on continuait à faire nos meetings en ligne. On avait des trainings, comme toutes les équipes, là, on se filmait sur l'ordi. D'imiter, on finissait nos cours aussi. Puis j'ai décidé de juste revenir puis dire je m'en vais à mon premier choix qui était de revenir à Laval.
Et ça, c'est intéressant parce que dans le même article, j'ai trouvé un très bon article d'ailleurs, allez le lire, ça a été publié il n'y a vraiment pas longtemps, la semaine passée, là, Guillaume Piedbeuf sur ici Radio-Canada Québec. Dans cet article-là, tu mentionnes que tu as réglé ça assez vite avec Léa Deluca, avec Danny Maciocha, qui était le coach à l'époque. Non, tu n'allais pas aller à l'Université de Montréal. Tu allais aller à Laval. Pourquoi? Tu sais, tu as dit, oh, je veux casser ça. C'est ça que qui est écrit dans l'article. Je veux casser le lien direct entre Grasset et Montréal. OK, mais pourquoi c'est toi qui voulais le casser? Qu'est-ce que tu avais gagné à le casser? Visiblement, il y avait quelque chose que tu trouves intéressant d'aller à Laval. Là, c'est pas juste
pour le casser. Non, c'est ça. Il y a une nuance. Maciocha, il n'était plus coach quand je suis remis.
OK.
Ça, c'était avant que je parte à Syracuse, quand j'avais visité Montréal, puis ensuite, j'avais visité Laval.
Oui, c'est vrai. Après la COVID, c'était... Ouais.
Quand je suis revenu, puis que j'ai signé à Laval, Marco a eu le poste là, ensuite. Mais... je sais pas, les installations, moi, comme je t'ai dit tantôt, je faisais comme 45 minutes de route à chaque jour, traverser Montréal, de la rive sud de Montréal jusqu'à Grasset, c'est quasiment sur le fond, quasiment le début de Laval.
Oui.
Fait que, juste, plus un campus comme universitaire, comme j'avais connu à Syracuse, j'étais venu avec mes parents, je pensais avant mon année 2010, avant ma dernière année 2018. À Laval, on avait aimé les installations. La stabilité dans le coaching staff, c'est quelque chose que je voulais aussi. Je pense que c'est ça qui m'avait fait choisir Grasset à la base. C'était vraiment le même coaching staff depuis Tony. Il est entouré pareil comme quand il coachait à Saint-Léonard, pratiquement. Puis stabilité dans le coaching staff, ils font ça depuis que je suis pas né encore. Fait que c'est les mêmes entraîneurs qui sont dans les mêmes bureaux, qui ont encore la même passion. On a un stade intérieur, le terrain, le fan base à Québec, c'est rien comparé ailleurs. Le gym pour nous, tout est vraiment quelque chose. Comme Syracuse puis Laval, je peux vraiment les comparer en termes d'installation. Si on ne parle pas d'un stade de 80 000 personnes, mais à notre échelle au Québec, je pense que c'est vraiment ce qui se rapproche le plus. De où j'habite, je suis à 5 minutes du stade. J'ai accès au physio, à tout encore, même quand je suis plus dans le rouge et or. Fait que je pense que c'est pour tout ça. Ça me tentait de sortir de l'île de Montréal, voir d'autres choses, puis Québec m'intéressait.
Je vais te poser une question qui peut être paraître touchée, puis à toi de me dire si on peut aller là. Il y a bien des rumeurs depuis des années comme quoi les meilleurs joueurs qui sont attirés à Québec, ils se font payer des appartements, puis ou ils se font donner des jobs, ou si... Tu sais, ça se parle, ça se dit, mais à quel point c'est... Tu sais, c'est parce qu'en même temps, il y a un élément frustrant si c'est faux, puis un élément frustrant pour les autres si c'est vrai, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Au-delà, parce qu'évidemment qu'on parle des installations et tout, puis c'est ouais. vrai, là, à Laval, en passant, il n'y a rien qui égale ça, là, au Québec. Mais est-ce que il y a d'autres choses qui sont faites pour attirer les meilleurs joueurs à Québec?
Je me suis jamais fait payer mon appartement. Là, c'est la première fois, normalement, j'ai toujours eu deux jobs. En saison, off-season, durant l'été. Tu as des bourses comme à toutes les universités. Ouais. Moi, j'ai une bourse de recrutement avec la fondation Aléo. C'est plus en termes d'encadrement. On va t'encadrer comment peut-être gérer ton budget. Des jobs, ils en offrent. Ils t'en donnent pas. Ils te donnent pas de l'argent. Ils t'offrent des jobs chez Tanguay. Il y a plusieurs gars qui travaillent dans les bureaux de Tanguay. Il y a plusieurs contacts. Il y en a plusieurs contacts avec des gérants de restaurants, des propriétaires de ci, de ça. C'est quand même un gros nom à Québec. Fait que s'il y a un gars qui cherche une job, surtout des gars qui viennent de l'extérieur, ils priorisent ces gars-là pour essayer de bien les placer. Même si tu connais personne en avant à Québec, pour te placer avec des colocs, tu sois proche de ton équipe, proche de l'université. Il n'y a rien qui est donné, ça me fait rire. Comme si,
Non, mais c'est correct. Je fais exprès pour poser la question parce que je trouve ça important que ça vienne de gars qui sont potentiels. Regarde, je prends un gars que tu sais, si t'en veux un qui a un talent particulier, puis ouais. C'est toi, je sais que tu n'aimes pas te faire flatter dans le sens du poil, ouais. Mais j'ai le droit de le faire pareil. Fait que l'idée, c'est. Je pense que tu es, mettons, le cas typique de OK, lui, on veut absolument l'avoir, fait qu'on va lui dérouler le tapis rouge, puis on va tout donner. Fait que si tu as vraiment du. Quelqu'un à qui il aurait pu donner quelque chose, c'est un gars comme toi. C'est pour ça que je me permets de poser la question.
Non, c'est correct, mais tu vois, il y a du monde qui me disait que je faisais quasiment le salaire d'un contrat recrue dans la CFA en venant ici. Que quand j'allais à Place Laurier, Place Sainte-Foy, tout m'était payé. Que Jacques, il me faisait des virements comme on l'a déjà tout entendu aussi, mais j'ai toujours travaillé deux jobs. Je me suis tout enlevé à 5 heures du matin pour aller travailler. Puis je travaillais dans un restaurant, puis des heures pas possible. Fait que on peut pas contrôler tout ce que le monde pense. Hein. Mais non, il y a pas de. On est comme les autres universités, tout est politique, tout passe par l'université s'il y a des bourses qu'un joueur peut avoir accès. Mais il n'y a rien de. J'aurais pris là, mon 75 000 de salaire pendant mes 3 ans ici, mais ça n'a pas été le cas, malheureusement.
Là, tu es à Laval, tu as une belle carrière, tu dis OK, le fanbase, mais tu as fait partie de ceux qui ont entretenu la flamme de ce fanbase-là pendant les saisons que tu étais là. Oui, parce que tu faisais sur le terrain un catch ici, un toucher là, mais tu es un gars qui a un sens du spectacle. Tu es un gars qui. Écoute, à travers la télé, à travers vos casses, on le voit que tu parles. Est-ce que tu es le meilleur trash talker du football universitaire québécois? Sinon, c'est qui? Si c'est pas toi, parce qu'il y a quelqu'un qui te répond, c'est sûr.
Je vais y aller avec moi. Je vais y aller avec moi, mais vraiment proche de moi. Je vais mettre à Harold, backer de Montréal.
Harold Nielsen, OK.
Moi, la fois, c'est que dans mon trash talk, j'ai dit ça s'étire sur toute la game. Normalement, les gars, ils parlent début de game ou halftime, ils commencent à être brûlés, fait qu'ils économisent sur leur énergie, puis ils commencent à moins parler, puis souvent le score, il fait un écart. Fait que moi, c'est vraiment de A à Z, je peux te parler toute la game, mais Harold, il y a du gaz pour ça, là, pour parler toute une game. Je pense que maintenant que je me retire du football universitaire, c'est officiellement lui.
OK. Parce que tu n'as pas trouvé ton dauphin là-dedans, les prochains receveurs du Rouge et Or, ils n'ont pas embarqué là-dedans.
Non, ça va changer drastiquement là, de l'année prochaine.
T'sais. Tes coachs, tu disais quoi de ça? Parce que j'imagine qu'à quelque part, t'sais, oui, t'sais, si tu es capable de backer tes paroles, on va te laisser un peu plus aller. Mais il reste que des fois, ça, tu peux donner du jus à l'adversaire. T'sais. Puis je vais parler de Montréal surtout, parce que tu le mentionnais, contre certaines équipes, à un moment donné, l'écart se faisait. Fait que, mais contre Montréal, la game, à chaque fois, tu le savais que c'était wire to wire. Là, ça n'allait pas. Puis surtout en éliminatoire. À quel point, des fois, tes coachs, leur arrivais-tu de dire, Mittal, ferme ta gueule 2 minutes. Là, lâche-les, là, faut occupe-toi de la game parce que tu es en train de les allumer. Oui, ça arrivait-tu, ça?
Non, ça ne s'est jamais arrivé. C'est jamais des allumés. Je pense qu'ils ont compris que ma game, puis même dans les pratiques, les spring camps, ça brassait souvent parce que j'arrêtais pas de parler, puis j'essaie juste de rentrer dans ta tête. J'essaie de te rendre fâché pour quand tu es fâché, tu joues plus intelligent, tu fasses des erreurs. Comme un DB, si tu rentres dans sa tête, c'est sûr, il va essayer de te coucher, il va essayer de faire des gros. Mais c'est là, à ce moment-là, que je sais que tu es fâché, tu vas tout. Tu sais, c'est arrivé une couple de fois là, que les débits m'attendaient, puis ils essayaient de me pousser à 2 bras, puis c'était comme, je sais que t'es fâché, puis tu vas manquer ta technique. T'essayes juste de faire des gros jeux pour me le rappeler, mais c'est vraiment de rentrer dans sa tête un peu, puis commencer à jouer avec lui. Ça a été ça depuis, je pense, secondaire même. J'ai des photos qui me font rire, là, de genre quand je commençais à jouer au foot à comme 7-8 ans. Je parlais déjà, puis il y a des photos que je suis par-dessus du monde, puis je regarde. Ça date de longtemps. Moi, je pensais que c'était quand même récent. Mais non, ils n'ont jamais rien dit, je pense. Si ça aurait été une problématique si j'avais commencé à prendre plusieurs flags. Je pense en 3-4 ans à Laval, 3 ans. Je pense que j'en ai eu un à Dunsmore l'année passée. Pas nécessaire. Puis c'était même pas parler, c'était vraiment finir un bloc puis juste le repousser à la fin. Mais parler, j'ai su les moments qui en parlaient, j'ai su naviguer à travers les arbitres pour pas prendre le flag. Mais il y a eu plusieurs situations, mais jamais un coach m'a dit. Les coachs savaient que c'était ma game d'essayer d'entendre leur tête. Moi, ça me primait encore plus. Ça primait les gars de l'équipe quand ils me voyaient parler, mais là, ils savaient que. Il fallait qu'il me back de qu'est-ce que je dis pour pas que j'arrête.
Oui, c'est ça aussi. Là. Parce que j'imagine que pour certains gars aussi, des adversaires vont dire « OK, Mittal, je ne pourrais pas me battre avec de toute façon, mais je vais me revenger sur l'autre à côté. »
Non, mais les gars ils ont été bons. Ils m'ont souvent backé dans des conneries que j'ai dit pour que j'arrête d'un épais. Mais non, les coachs n'ont jamais rien dit. Je pense que s'il y aurait eu un problème de pénalité qu'à chaque game, je prends un 15 verges, là, peut-être Glenn m'aurait dit « Reste tranquille un peu, là. On n'a pas le temps de prendre les pénalités. » Mais ça n'a pas été un problème. Puis je pense que ça a fonctionné autant pour des joueurs que des entraîneurs. Fait que je continue à faire ce que je faisais bien.
J'ai une autre question, celle-là, tricky pour toi. Jonathan Sénécal ou Arnaud Desjardins?
Arnaud aurait pu être un Ed Crichton mon année. Là. Je pense que les discussions étaient vraiment... J'aimerais ça savoir c'est qui a discuté quoi puis comment ça s'est décidé. Parce qu'autant Jeff Russell du RSEQ que le Ed Crichton, je pense que les deux, il avait plus splitté les deux trophées pour cette année-là. Autant qu'Arnaud a connu une saison incroyable à distribuer le ballon à des bons receveurs que j'ai connu personnellement une bonne... saison comme receveur. Joe l'a gagné l'année d'après.
Mais tu sais, toi, là, parce que tu sais, statistiquement, puis regarder tout ça en général, c'est une affaire, tu sais. Mais, OK, je vais poser la question autrement, parce qu'au-delà de savoir qui est le meilleur, le débat sera jamais fini. Toi, avec lequel, puis je sais que tu es rendu plus vieux, tu as plus d'expérience, fait que peut-être qu'il y a des choses que tu as développées aussi, mais... Avec lequel tu as eu la complicité la plus évidente, avec lequel vous vous retrouviez que c'était clair que, tu sais, à la limite, vous auriez pu improviser ensemble certains jeux et dire, OK, on se regarde du coin d'œil, on a compris qu'on ne pourra pas faire ce que le jeu était destiné, mais on fait d'autres choses puis on se comprend. Cette complicité-là, as-tu réussi à l'établir à un point élevé ou égal avec les deux? Il y en a-tu un qui c'était plus facile? Ou...
Je ne vois pas le même genre de carrière là, entre les deux. Ça, Joe est plus flashy, il est plus. Il peut courir, il fait des spin moves. Joe, il fait du Joe Sénécal. Arnaud est plus, vraiment plus posé dans sa pochette. Il fait des bonnes lectures. Il sait à qui envoyer le ballon. Très intelligent, très cérébral. Joe, ça a été. Je pense qu'on ne jouait pas encore ensemble. On venait de le recruter à Grasset. Puis on était sous son recrutement là. Je ne sais pas pour qu'il s'en vienne à Grasset. Autant moi que Tony. Je pense que la première fois qu'on a joué ensemble, c'était à Team Québec, à Winnipeg, ma deuxième année de Team Québec. Puis lui, c'était sa première, je pense. Puis je me rappelle juste un jeu là, qu'on a fait. On a fait une complétion de comme 45 verges. Mais c'était comme un bender qui a fini, qui a roll out. Puis on s'est regardé, puis il a juste pointé. Puis en tout cas, ça a fait un gros gain. Puis là, j'ai dit, OK, genre, c'est ça, on va connecter plusieurs fois au prochain niveau. On peut faire de bonnes choses ensemble. Fait que je pense pas que c'est le même genre de carrière. Je pense que le débat va être terminé à la fin de la saison prochaine, quand les deux carrières vont avoir fini leur carrière U-Sport. Puis là, vous allez pouvoir prendre les deux CV puis les comparer. J'ai connu du succès avec les deux. Fait que je peux pas décider ça va être lequel des deux. Le CV va parler de lui-même, la feuille de route, puis qui va pouvoir avoir une chance au prochain niveau. Je pense que c'est ça qui va déterminer. Ça va être qui le meilleur carrière du U-Sport.
Ensemble, justement, tu en as glissé un mot. Ensemble, vous avez connu une saison 2022. Puis ensemble, avec bien d'autres gars, là, en fait, tout le rouge et or, là, on ne commencera pas à nommer les 100 gars qui ont peut-être porté le chandail à un moment donné. Mais ce que je veux dire par là, c'est l'année 2022 a été extraordinaire pour le Rouge et Or. Arnaud et toi, vous avez connecté assez souvent pour te permettre d'établir des records. Oui, tu as gagné le Creighton puis le Russell au Québec. Puis, mais je suis d'accord avec toi qu'effectivement, souvent ça arrivait que le monde se demandait si c'est Arnaud ou c'est toi qui le méritais. Et je pense que les deux réponses auraient été bonnes. Mais en plus, vous aviez un Kalenga Muganda qui est arrivé dans la saison, qui à un moment donné a changé des choses aussi. Il est arrivé plein d'affaires. Est-ce que c'est la saison, ta saison préférée dans le football? Parce que les résultats sont là, oui, mais à quel point vous aviez du fun ensemble? À quel point ça a été agréable de faire cette saison-là? Puis, en menant tout ce que ça a amené, parce que la ride en éliminatoire, là, oui, il y a eu la Dunsmore, mais après ça, la demi-finale, la Coupe Vanier, ça n'a pas tout été des matchs faciles, loin de là. Puis, en termes de souvenirs, c'est une chose, mais est-ce que c'était ta saison préférée?
Je pense que oui, mais c'est ce qui se rapproche de plus de mes souvenirs. Fait que c'est ça, je vais dire oui. Je me rappelle aussi à Grasset, je pense que c'était un gros processus, être avec les mêmes gars pendant 3 ans, les mêmes gars qui ont signé en même date que moi, qui ont cru à Anthony Adeluca, qui sont entrés dans ce programme-là, que ça faisait 1 an, 2 ans qu'ils étaient en Division 1. Je pense qu'il y a beaucoup de gars qui se sont juste pitchés à Grasset, puis ça a donné de bonnes choses. C'est des Rochelot, puis des Bruno Lagacé, des Axel, des Makwanda qui décident d'aller dans une équipe qui vient de rentrer en Division 1. Je pense que ça en dit grand sur le personnage qui est Tony Adeluca. Là, t'amènes moi là-dedans, t'as amené Joe, t'as amené William Marchand, des rangées, des milieux. Puis de partir de notre première saison 2016, puis on les a gagnés à tous les niveaux, mais là, Division 1, ça va être de plus en plus dur. Recruter Joe, puis là, on commence à être stack, on commence à avoir une chimie d'équipe, le vestiaire commence à se recoller un peu. Il y a des gars qui ont commencé en division, pas qu'on ne l'avait pas en 2016, mais il y a des gars qui avaient signé pour être en division 2 quand ils étaient rentrés. Fait qu'il y avait comme un genre de gap qu'il fallait fermer avec les années. Deuxième année, ça a comme été l'année de transition. Puis en 2018, ça a été juste une année incroyable. Je vois cette saison 2018-là un peu comme 2022. Grasset, on n'avait jamais gagné en division 1. Fait que c'est pour ça que je l'aime particulièrement. Laval, sont juste habitués de gagner. Quand Laval ne gagne pas, c'est comme le monde sont surpris. C'est une culture gagnante. C'est ça, c'est vraiment des beaux souvenirs. Moi, je pense que le plus beau souvenir, c'est le 10 jours, comme tu as mentionné, là, de partir d'ici, aller à Coupe Mitchell, gagner sur leur terrain, avoir avec un différentiel de 17 points au halftime, l'énergie qu'il y a eu dans l'halftime, les gars de défense commencent à chanter, tout le monde se lève, sortir de là, puis personne n'était stressé, tout le monde calme. Tout le monde a bien exécuté, ça a bien été. Puis
Parlons-en vite de ce match-là. Vous perdiez par 17, ça c'est une chose, mais c'est le comment aussi. Ouais. Des erreurs qu'on ne voit jamais de vos gars de ligne offensive. Je ne sais pas si c'est la nervosité, c'est qu'est-ce qui est arrivé, mais puis tant mieux, on peut en parler positivement, parce qu'à la fin, ça a fait une victoire. Mais il y avait quelque chose que je me rappelle, puis j'avais trouvé spécial, c'est que votre joueur de centre, je suis vraiment désolé, je ne me rappelle même pas c'est qui, parce que je n'ai pas checké mes affaires.
Nicolas Thibodeau.
C'était Thibodeau. Il a été envoyé garde. C'est pas, on ne l'a pas sorti du terrain en disant « on va en mettre un autre ». Les coachs l'ont laissé sur le terrain en disant « OK, peut-être que ça ne marche pas au centre aujourd'hui, mais tu es encore un pilier de notre gang, là, on t'envoie là. » Puis, vous avez remonté le match, ça, c'est une chose, mais ça, là, est-ce que c'est un genre de décision qui a surpris le groupe, qui a impressionné le groupe, ou c'était juste « Non, non, c'est normal, ça se passe comme ça, on lui laisse chacun faire leurs affaires, puis vous étiez tous concentrés de votre banc », ou si c'est quelque chose que vous avez remarqué puis qui a eu un impact?
C'est sûr, ça a eu un impact. Là. Ces deux gars vétérans, c'était Nick Gay et Nick Thibodeau qui ont été échangés, en fait. C'est juste ça. C'était deux gars, deux vétérans de sixième année que tu peux faire confiance aveuglément. Je pense que la nervosité a fait qu'il y a eu des erreurs. Je pense que ça arrive à tout le monde. Je pense pas que son match devait être terminé là, à ce moment-là. Je pense que depuis... Je pense que c'est le contraire. Il y avait tellement de rage qui sortait qu'il était comme « Va là, va frapper du monde, ça va te faire du bien. » Mais non, ça n'a pas surpris personne. Là. Quand tu as deux vétérans comme ça de sixième année, c'est pas genre tu veux pas lancer un rookie ou un gars qui a moins d'expérience dans ce genre de match-là pour remonter un match que tu perds en ce moment. Fait que je pense que le switch a été vraiment bien pour nous. Puis Thibodeau, il a connu... une grosse game après ça. Là. Je pense qu'il a couché du monde à plus finir ce match-là. C'est ce qui nous a aidé à remonter. Là.
Non, absolument. Parce que moi, je me souviens, ça avait été marquant pour moi parce que je trouvais que ça montrait une organisation qui a confiance en ses gars et qui ne veut pas ça fait des gars qui ont confiance à leur organisation aussi en sachant que on lâche juste pas, puis on lâche pas nos gars. Il y en a un que ça se passe pas bien. On trouve une solution, mais on passe à d'autres choses, mais on fait quand même encore confiance à nos gars. J'avais été marqué par cette décision-là, puis le revirement que ça avait mené. Mais vous aviez gagné ce match-là, ultimement. Une grosse, grosse, grosse victoire. Puis, ultimement, après ça, gagner la vanille sur le terrain, sur le terrain de l'adversaire, puis... Ça avec, j'imagine que c'est quelque chose, mais vous aviez beaucoup de vos partisans, tu en parlais tantôt de vos partisans qui sont un groupe spécial. Vous aviez toujours beaucoup de partisans du Rouge et Or partout où vous allez. Ça, c'est quelque chose qui a aussi marqué ton passage avec le Rouge et Or?
Mais oui, mais c'est sûr. Juste qu'on se regarde de remplir un stade en moyenne, c'est quoi au stade? Tu es là, c'est un 14 000, 13 000 à chaque match. Puis... Je pense qu'il y a eu un reportage à Radio-Canada qu'ils sont là depuis dans la nuit, qui font la file pour les tailgates, qui se déplacent jusqu'à Western. C'était pas étonnant, sachant ça. Mais c'est sûr, là, ils étaient derrière nous. Puis nos familles étaient là, des amis, juste des fans du Rouge et Or qui ont débarqué là-bas. C'est incroyable là, pour un sport universitaire d'avoir autant de support. Et même quand on est revenu directement après le match, on a pris un avion, on est atterri à un genre de petit aéroport. Là. Puis il y avait plein de fans encore qui nous attendaient. On a pris un autobus, on est arrivé au vestiaire, puis au stade, il y avait encore plein de monde. Fait que pour un sport, c'est pour ça que je dis que c'est ce qui se rapproche le plus du college football. Là. C'est ce que tu pourrais voir dans la NCAA, du monde, des fans dévoués qui. C'est l'argent pareil, là. Ils ont loué des autobus, ils se sont organisés, là, toute le Row Nation pour louer des autobus, se rendre là-bas, revenir. C'est du temps de travail, c'est de l'argent, Mais eux sont dévoués, puis sont contents d'être là, puis sont autant contents que nous autres. Fait que, puis on fait du bruit tout le match, ils ont dérangé. Puis, ouais, c'est vraiment le meilleur fanbase qu'il peut avoir au U Sport.
Cette gloire-là, puis cette lumière-là que vous avez est cool quand vous gagnez. Mais début de cette année, on entend parler d'une histoire plate qui t'arrive ou qui est en tout cas une circonstance que tu peux peut-être nous expliquer si tu veux, mais je sais que tu en as parlé avec les équipes parce qu'ils sont, ils t'ont soit posé la question ou toi t'as amené le sujet. Tu as été obligé de plaider coupable à une accusation de voie de fait simple. Ça t'a amené des conséquences, même une suspension d'un match de la part du Rouge et Or. Est-ce que ça, tu sais, à quel point, je sais quand on, tu sais, je t'avais écrit, puis tu sais, ici et là de même, puis, mais aujourd'hui, quand, est-ce que c'est quelque chose qui t'a dérangé? Est-ce que tu sens que ça a dérangé aussi ton équipe juste pendant cette période-là, avec du recul, là, quand tu es capable de le regarder?
Ça m'a dérangé, je pense pas tant que ça que ça m'a dérangé. Est-ce que ça a dérangé? C'est sûr que ça a dérangé. L'université, il fallait qu'il soit là-dedans. Julie Dionne, il fallait qu'elle soit là-dedans. Glenn, il fallait qu'il soit là-dedans. Tout ça, c'est du temps qu'ils ne mettent pas ailleurs. Fait que c'est sûr que ça a dérangé. Est-ce que ça a dérangé l'équipe? Je pense pas plus que ça. C'est une situation qui est arrivée il y a deux ans-ish et demi auparavant. Le monde était déjà pas mal au courant là, de ce qui se passait. Mon avocate, elle avait déjà le dossier quasiment réglé. Quand c'est sorti, je pense que ça a été bien sorti. Elle a fait son travail de journaliste, elle l'a sorti. Moi, je pensais que ça allait sortir le 7, puis ça nous a comme surpris. On pensait que ça allait sortir le jour qu'on passait en cours, mais je pense que ça a plus amené une énergie négative autour de moi. Que ça l'a amené. Mais tu sais, moi, j'ai été habitué de prendre le hit puis avoir l'attention.
Non, mais c'est un hit différent. C'est pas j'ai raté un jeu, c'est pas j'ai pas parlé, c'est pas on a perdu une game. C'est ça devenait mettre la lumière sur un bout qui n'a rien à voir avec le football à la base. Du moins, je pense pas. Puis, tu sais, fait comment je pourrais dire, on gère les affaires autrement aussi, là, veux pas, t'as beau avoir ta personnalité, puis ça reste un cas tellement particulier, tu sais, c'est pas comme si t'étais habitué de gérer que t'es devant un tribunal, puis t'as des médias qui courent après toi, pour savoir qu'est-ce que t'en dis là-dessus.
Mais, mettons pour, tu sais, ça, c'était pas un stress pour moi, mais je pense plus pour les autres équipes quand on allait jouer à l'extérieur, je leur donnais du gaz, d'habitude, c'est moi qui suis pas attrapé, fait que là, ils vont en beurrer épais, mais tu sais, à ce que je m'attendais. Je pense pas que ça m'a dérangé personnellement, mais je pense définitivement que ça a mis un esprit négatif autour de moi.
C'est une histoire que tu as le droit de raconter ou qu'il y a un disclosure ou en tout cas une clause de confidentialité ou quelque chose? Ou,
on rentre pas trop en détail quand ça vient à les médias. Les détails ont tous été rencontrés de A à Z avec les équipes. La seule affaire que je peux dire, tu sais, il y a beaucoup d'affaires de médias qui voulaient sortir, je comprends les clickbait, là, qui voulaient sortir comme quoi que c'est deux gars du Rouge et Or, puis que le Rouge et Or essaie de camoufler l'affaire, puis que le Rouge et Or a fait ci, puis ça, puis que le Rouge et Or devait sortir, puis pas essayer de sauver son joueur vedette. Le Rouge et Or a absolument rien à faire là-dedans. L'autre personne, là, c'est quelqu'un qui a été au Rouge et Or, ça fait, je pense, 6 ans qu'il est au Rouge et Or. Moi, de la façon que j'ai expliqué aux équipes, là, c'est pour justement dire que le Rouge et Or est zéro impliqué là-dedans. C'est deux citoyens de la ville de Québec qui ont eu un désagrément, qui ont réglé ça en cours. C'est comme deux voisins qui s'estinent sur quelque chose. Tu passes en cours, tu règles ça, c'est fini, that's it. Je vois pas pourquoi que le monde essaie d'impliquer l'Université Laval, le Rouge et Or là-dedans. Avant qu'on soit des étudiants, avant qu'on soit des athlètes, on est des citoyens de la ville de Québec. Il s'est passé quelque chose, on a réglé ça en cours. Justement, si le Rouge et Or aurait été mis au courant avant que ça tombe en cours, il aurait sorti ça public, puis il aurait réglé ça behind closed door, ça ne serait pas sorti public. Je comprends pas pourquoi le monde il essaie de passer ça sur le Rouge et Or qui ont camouflé quelque chose.
Mais tu le sais, les... la nature a horreur du vide. Fait que dès qu'il y a un trou à remplir, il y a du monde qui veut le remplir, puis ils peuvent le remplir avec ce qu'ils veulent. Ça fait que ça, c'est une chose. Puis les réseaux sociaux font ça. T'as après ça, les groupes de fans, comme tu disais, qui se font un plaisir de dire... ils nous écœurent en parlant, ils nous écœurent en étant bon contre nous. Si on a une chance d'écœurer en tant que fan parce qu'on ne peut pas leur pogner sur le terrain, on peut le pogner peut-être avec ça. T'sais, chacun a ses raisons là, de vouloir expliquer les affaires. Puis il y en a qui sont juste des fouines aussi, là, mais c'est correct. Mais on ne comprend pas pourquoi le monde le fait, mais on le sait que le monde va le faire. Fait qu'après ça.
Mais c'est correct. Puis ouais, je pense que c'est pas mal juste ça là, que l'autre genre par rapport là-dedans. Puis, sinon, ouais, les détails, j'en ai parlé avec les équipes. Dans les médias, on ne va pas trop sortir. Il y a quand même beaucoup de monde impliqué là-dedans. Fait que...
je respecte ça à 100%, mais je me devais de te poser la question. Mais cette année, par contre, au-delà de ça, vous veniez de gagner le championnat, la Coupe Vanier, mais vous êtes arrivé. Et cette année, l'année d'avant, c'est Carabin qui avait subi beaucoup de blessures, bien des gars importants. Cette année, c'est à vous autres que c'est arrivé, ça.
Ouais.
À quel point c'est frustrant? Puis là, toi, tu savais probablement que c'est OK, c'est ma dernière année, c'est ça. Je n'ai déjà gagné un, fait que j'ai envie d'en gagner un autre. Tu as ta gang avec toi. Puis à quel point ça, c'est frustrant pour le groupe? Tu sais, individuellement, tu as eu tes blessures à toi. Là, je t'ai vu te promener avec ton genre de petit basic que tu te mets un genou dessus. Puis, mais tu sais, ça, c'est une affaire. Mais l'autre chose, c'est ça, c'est la quantité de gars aussi qui ont subi des blessures, qui ont fait que l'équipe n'a pas pu faire former à son plein potentiel. Comment vous le viviez en dedans, ça, cette frustration-là?
Ouais, c'est ça, c'est frustrant. Là. Tu veux t'en aller à une game, tu ne sais jamais. Autant frustrant pour les joueurs personnellement qui veulent être sur le terrain, aider leur équipe, que pour les entraîneurs, pour un game plan. Comment tu te fais? Il y a des gars que... Moi, il y a des games que je ne pratiquais pas toute la semaine puis que j'avais le go des physios le vendredi avant le walkthrough. Là. Fait que... T'sais, Justin essaie de planifier un game plan toute la semaine en sachant que je ne suis pas là. À dernière minute, il m'a pas à 100%, mais il m'a. Est-ce comment que tu changes tout? Fait que je pense que c'est beaucoup de frustration, c'est beaucoup d'ajustements. Moi, ça a commencé avec mon match de suspension contre McGill. Après ça, le match d'après contre Montréal, j'ai eu un high ankle sprain qui m'a suivi quasiment tout au long de tout le reste de la saison. Là. Fait que ouais, c'est frustrant. Moi, j'avais jamais manqué de match là, de ma carrière de 17 ans pour une blessure ou pour rien. Puis ça a été une suspension de premier. Fait que ça, je trouvais ça assez épais. Puis après ça, les blessures, c'est frustrant. J'avais jamais vécu ça, des blessures avant cette année. De ne pas pouvoir être sur le terrain, voir des gars tomber sur le terrain, tu ne peux pas aider. C'est comme un sentiment d'impuissance. Mais très frustrant, mais comme toutes les équipes en vivent, l'année d'avant, c'était la nôtre, comme tu as dit. Cette année-là, beaucoup de blessures, beaucoup de problèmes. Il y a des gars aussi qui avaient des problèmes personnels. Fait qu'on n'a pas eu tout notre staff. Tu veux juste supporter tout le monde, assurer que tout le monde revienne en santé l'année d'après. T'assurer que tout le monde soit dans une bonne esprit mentalement pour revenir de ces blessures-là, pour... que tout le monde veut rembarquer dans ce bateau-là, même si c'est du football, là. Il y a des hauts et des bas. C'est pour notre première année quand tu rentres à Laval. C'est sûr, pour Laval, pour les fans, c'est décevant. C'est l'habitude de nous voir aller presque jusqu'au bout. Mais ouais, c'est frustrant, mais je pense que là, Laval, les jeunes qui rentrent, je pense que c'est prometteur. Des grosses classes de recrutement. Je vois les jeunes à chaque jour. Ils travaillent fort, puis ils vont aller rechercher une vanille.
T'as-tu été impliqué dans le recrutement? Est-ce que Mathieu Bertrand il implique ses vétérans, ses gars dans le recrutement, appeler des gars, essayer de closer des recrutements avec ça?
Ouais, j'en ai fait une coupe, mais là, pas durant ce off-season-là. Là, il savait que ma tête était 100% en CFA, mais toutes les autres off-season, j'étais impliqué là, d'appeler, texter des gars, prendre des nouvelles, aller les amener à des places, leur faire montrer Québec un peu. On a closé une coupe de bons deals, mais on a perdu aussi.
Ça fait partie de la game.
C'est pas la game. Mais ouais, non, pas ce off-season-ci.
Maintenant, bon, ta santé, c'est top. Ta cheville est 100% remise, j'imagine, ou il y a encore des petits relents? Ou, comment c'est,
non, 100%. On est de retour à la forme 2022. à la forme-ish. Là, il y a un peu trop de poids encore. Là.
Ah oui, OK, OK. Il y a un poids auquel tu voulais... Ben, je sais que je me rappelle effectivement qu'il y avait eu des passes où est-ce que tu étais rendu quasiment à 230 livres, je ne sais pas, tu es retombé à 215, ou peu importe les vrais chiffres, là, mais c'est quelque chose qui est... C'est quelque chose qui est difficile pour toi de maintenir un poids plus léger ou tu ne veux pas être trop lourd?
Je prends du poids rapidement. Je suis probablement à 2 mois au combine. Je pensais arriver à 2,22, 2,25. Finalement, on a weigh-in à 7 heures le soir. Et j'étais à 2,29. Là, ça a surpris tout le monde. Je pense pour une saison comme 2022, j'étais autour de 2,18. C'est quelque chose que je veux me rapprocher de plus en plus. À recevoir, c'est beaucoup de breaks sur les genoux, les chevilles. Fait que tu veux enlever un peu de poids là-dessus.
Sens-tu ta vitesse différente quand tu perds du poids? Est-ce que tu te sens plus rapide?
Non, c'est ça. Je pense que c'est très, très compensé. Là. C'est pas juste je deviens gros du haut, les gens m'y suivent. Comme j'ai couru mon 40 verges au combine à 2,29, puis c'est le plus vite 40 verges que j'ai couru. Fait que. Non, je veux juste question de rester en santé pour éviter des blessures, enlever un peu de poids, surtout à cette position-là, au prochain niveau. Là, ça court, puis les QB, ils se rendent à toi. Là, fait qu'il faut que tu continues à courir. Fait qu'on essaie juste d'enlever un peu de poids là, pour éviter des blessures.
Toute ton expérience, tout ça, t'amène à aujourd'hui, justement, à l'aube d'un repêchage, à l'aube de devenir pro. Comment ça te prépare? Puis qu'est-ce que tu vas changer de ta vie d'amateur versus ta vie de professionnel? Parce qu'on suppose que tu vas te faire repêcher et que tu vas trouver une place dans une équipe. Mais devenir pro, c'est-tu stressant de dire « OK, ça devient ma job? » Est-ce que puis comme je te posais comme question, est-ce qu'il y a des choses que tu penses que tu dois changer ou faire évoluer du fait de passer d'amateur à pro?
C'est ça, c'est pas stressant que ça vienne d'une job, je pense que c'est moins stressant, je pense que c'est ça qui est stressant avec, comme étudiant athlète, là, c'est de manager l'école, le sport, puis tes jobs à côté, parce que tu payes tout ça, surtout pour le monde à l'extérieur, qu'on est plus chez nos parents, ça devient ta job, fait que je pense que c'est moins stressant, c'est juste ça que t'as à penser à part du foot pendant 6 mois, puis l'autre 6 mois, la beauté du sport... de la Ligue canadienne, c'est que tu reviens à la maison, tu fais tes affaires tranquillement. Fait que je pense que ça enlève un stress, au contraire. Qu'est-ce que je dois faire différemment? Je pense que c'est d'être plus consistant, de prendre le temps de récupérer, de prendre soin de son corps. Je pense que des fois, on botche des affaires parce qu'on est tanné d'être au PEPS. On est là à journée longue, on s'entraîne, physio, pratique, des meetings. Quand c'est fini, on veut s'en aller. Mais là, dans la CFL, je pense que c'est quoi? C'est 4h30 maximum qu'on peut être dans le building. Fait que c'est faire du extra work, si on veut. C'est juste 4h30 par jour, c'est pratiquement rien. Fait que c'est faire plus de vidéos, plus de récupération, plus de traitement pour t'assurer que ton corps y suive. Fait que c'est des très longues saisons qu'on n'a jamais vécues. On passe de 8 à 18. C'est un gros gap avec 3 bye weeks, fait que c'est des très très longues saisons. Mais d'être plus consistant, puis de mettre plus de extra work, puis prendre soin du corps, là, pour que ça suive.
As-tu la chance d'en parler justement avec des gars qui ont. Je vais prendre l'exemple de Mathieu Bertrand qui a eu une longue saison dans la CFL. Est-ce que c'est des discussions que tu as déjà eues justement avec ces gars-là de ça va être quoi ta vie comme pro?
Ouais, mais tu sais, c'est. Quand tu ne sais pas encore où tu vas, là, c'est quand même difficile à choisir.
Okay.
Y a des gars qui sont à Edmonton que ton semblant de vie, il ressemble zéro à des gars qui pourraient être à Ottawa ou Montréal, que tu peux avoir ta vie pratiquement normale, là, que tu peux avoir ton condo, là, tu peux. Il y a des gars que leurs blondes, ils viennent avec eux. Tandis qu'à Edmonton, c'est comme tu es isolé pendant 6 mois. Fait que c'est. Ça dépend vraiment où que tu vas, puis ta carrière, puis ton mode de vie, si je peux dire ça comme ça, va vraiment être selon où que t'es. Là. Les gars que je connais qui sont à Hamilton ou Edmonton, leur vie, c'est zéro. Qu'est-ce qu'ils veulent, ça soit dans 8 ans?
C'est sûr que c'est pas le même genre de ville que Vancouver, Montréal ou Toronto.
Les gars qui sont à Montréal, leur journée de travail, ils sont dans leurs affaires, puis ils s'en vont nulle part. Là. Mais Fait que c'est des modes de vie différents, c'est pour ça que les discussions, on ne les a pas encore, mais c'est plus comment plus travailler, faire attention aux détails, qu'est-ce que les coachs ils regardent un peu plus à ce niveau-là, comment pratiquer plus intelligemment.
As-tu commencé à faire du tape, genre regarder comment les DB travaillent, comment les schémas offensifs sont dans CFL, pour juste au moins comparer avec ce que tu as vécu universitaire?
Non, pas en défense. J'ai commencé. Qu'est-ce que j'ai regardé le plus? C'est vraiment plus en offensive, là, les receveurs, comment ils s'ajustent, leur genre de tracé. T'sais, nous, on a tendance à faire des posts ou des corners peut-être à 10-12 verges. Dans la Ligue canadienne, c'est vraiment plus à 15-16. Il y a vraiment plus un jeu de profondeur. Les waggles, comment les gars ils jouent avec ça. J'ai plus regardé des receveurs. Puis après ça, le mardi, quand le téléphone sonne, le mercredi, ça va être sur vraiment regarder qu'est-ce que mon équipe fait offensivement, là, puis qu'est-ce que ça a l'air pour pas arriver là, puis être clueless de qu'est-ce qui se passe.
Tu as parlé de plans éventuels pour la NFL. Je voyais ça, j'ai vu ça écrit. Tu as quelque chose en tête de comment tu veux essayer de te projeter dans la NFL? Est-ce que ton plan il est vraiment clair ou c'est juste parce que tu dis « OK, j'ai une bonne idée de qu'est-ce que je veux faire » ou c'est vraiment tu t'es établi un chemin puis tu es rendu là. Si je vais à la NFL, c'est ça qu'il faut que je fasse puis c'est déjà établi.
Il n'y a pas de chemin tracé. Tous les chemins vont mener à Rome. Peu importe lui que je veux. Tout le monde disait que quand j'ai décidé de revenir de Syracuse, tout le monde disait que c'était la pire décision de ma vie que je suis en train de faire. Je trouve que c'est la meilleure. Il y a des gars qui sont dans la NFL qui étaient à Syracuse. La majorité des gars que j'étais avec à Syracuse sont dans la CFL. Puis j'ai eu le temps d'être confortable, bien aimé mon parcours universitaire. Fait que je pense que je suis content de cette décision-là. Pour le chemin que je veux prendre pour la NFL, est-ce que je vais jouer à NFL? Ça, c'est un autre dossier. Est-ce que j'ai l'opportunité d'un camp dans la NFL? Je pense que oui. Plus tôt que je pense que je le pense. Mon plan, c'est rien de... J'ai tout le temps été quelqu'un qui se projette beaucoup. Fait que on va voir. Mais je pense que selon qu'est-ce qui va se passer mardi prochain au repêchage, je vais déjà avoir une idée de comment je vais attaquer cet angle-là. Puis si c'est pas l'hiver prochain, ça va être l'hiver d'après que je vais être l'autre côté en train de faire des camps.
As-tu un agent qui t'aide là-dedans ou pour l'instant, comment tu travailles à ce niveau-là?
Moi, j'ai un agent. Je n'ai pas trop parlé encore. On s'est parlé au Combine Plus. Ouais, je ne suis pas quelqu'un qui pose un million de questions. J'analyse plus la situation un peu comme dans le recrutement. J'analyse les bacs, je sais qui sait ce qu'il fait. Moi, je suis avec Sacha. Fait que, okay. Il sait ce qu'il fait.
Il sait ce qu'il fait.
Ouais, fait que, je suis pas avec quelqu'un que c'est sa première fois qu'il fait ça. Je fais confiance là-dedans. Puis, on va voir, je sais que si l'opportunité tombe à son oreille, ils vont m'en faire part, puis on va prendre l'opportunité à 100%.
On va te le souhaiter très, très, très sincèrement. Je finis avec une dernière question de où est-ce que je vais te demander de te mouiller. Qui est le meilleur joueur défensif que tu as affronté, que ce soit un DB, un... j'imagine que tu étais face à des halfbacks la majorité du temps vu de ta position, mais le gars que tu as eu le plus de difficultés à affronter. J'ai mon idée en tête de ça peut être qui, mais je vais te laisser me dire ce que toi t'en penses, comment ça s'est
passé. Défensif ou vraiment un DB?
Ben évidemment, c'est sûr que je ne veux pas que tu me dises qui est le meilleur joueur défensif, point, parce que mettons, je vais dire, tu vas me dire Harold Miesan, mais tu n'as peut-être pas eu tant de one-on-one avec lui. Moi, je pense que le joueur que toi, personnellement, tu as eu affronté, que c'était le plus difficile, que quand tu s'alignais en avant de toi et tu savais que ta route allait être contre lui, tu dis OK, lui, c'est le plus difficile. Là.
Niveau universitaire, qu'on parle?
As you wish.
Cégep, universitaire, je vais mettre dans les deux. Maxime Lavallée, très, très, très fatigant.
Heureusement, tu as joué avec lui. Tu n'avais pas à l'affronter.
Mais j'ai affronté au cégep, puis j'étais tanné d'un fois.
OK.
Très rapide, très... Il sait ce qu'il fait. Il est très, très intelligent. Il break rapidement. Pas dans mon équipe. Il y a Ben Labrosse qui est très bon, très athlétique.
Parce que c'était mon choix. C'était mon choix quand j'ai vu Ben Labrosse. Ben en même temps, ouais, j'imagine que tu savais si tu as lu un peu ou tu as vu un petit peu ce que j'ai déjà posté avec le temps, mais Ben Labrosse, je me rappelle que les games de Grasset contre Vanier, c'était tout le temps difficile pour Grasset, mais Grasset gagnait contre tout le monde, mais Vanier il a tout le temps une petite bête noire.
J'ai gagné contre Vanier.
Ben, c'est ça. Puis Labrosse était là. Puis je me souviens très bien aussi de la fois quand Labrosse jouait avec McGill. Puis le fameux match-up où est-ce que je pense que ça se passait à Laval d'ailleurs. Ouais. Mais Ron Hiller avait mis Labrosse sur toi tout le match. Ça a été un match-up que j'ai adoré suivre parce que c'était une grosse bataille. À l'intérieur de la bataille du match, c'était une grosse bataille qui était le fun à suivre.
Ouais mais c'est un athlète. Ben Labrosse, on l'a vu au combine, on l'a vu. On l'a vu un peu à McGill. C'est un... Quoi dire de son... Comment il est athlétique, ce gars. C'est incroyable. C'est... Je pense qu'il va faire... Il va être très bon au prochain niveau. Il est arrivé au combine. Là. C'est les gars étaient... Laval, on est préparé pour les combines comme si c'était notre ville. On sait exactement quel pied mettre où, combien calculer les pieds. Ben est arrivé tel Ben arrive à quelque part, un peu nonchalant, pas de technique dans ses tests physiques et tout, mais les meilleurs temps que comme j'ai vu de mes yeux, c'est ça effortless là, il est juste athlétique. Je pense qu'il va sortir tôt le mardi prochain là, parce que il peut être sur un terrain de Ligue canadienne, je pense, assez tôt.
C'est un objectif pour toi de sortir, mettons, le premier gars U-Sport qui sort versus les gars de la NCAA? Y a-t-il quelque chose pour toi là-dedans que tu t'en vas, qui a une valeur pour toi? Ou...
Pas vraiment. Là, on n'est pas NFL. Il n'y a pas des signing bonus de fou. Là. Puis tu sais, la réalité du repêchage de la Ligue canadienne, c'est que, comme le... Ben, c'est ça là, que tout le monde se posait les questions. Il y a des mock drafts. Puis il y a vraiment des rankings.
Ouais.
Il faut faire la différence entre les deux. Là. Mock draft, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils pensent qu'il va sortir le 30 avril.
Oui, parce qu'il évalue les besoins d'une équipe. Là, tu te dis, eux autres, ils ont besoin d'un receveur. Fait que Mittal est probablement un meilleur choix que
Roland. Là-dedans, ils mettent les gars qui s'en vont directement à NFL un petit peu plus bas parce qu'ils veulent. Tandis qu'un ranking, c'est vraiment les meilleurs gars de ce draft-là. Puis je pense que la nuance a mal été faite à quelque part. J'entends plein d'enfants, mais de ranking, je pense qu'il y en aurait. Dans le U-Sport, je pense qu'il y en aurait beaucoup. Je pense juste aux gars, aux deux O-line de UBC.
Ouais.
Je pense que je sortirais quoi, le quatrième, cinquième du U-Sport si ces gars-là étaient mis de l'avant dans le mock draft. Mais qu'est-ce qui est du mock draft et du draft qui va se passer. Je pense que je ne mettrai pas de pression pour sortir premier de U-Sport, mais je pense que je devrais être dans le top 2. Là, si c'est pas top 1 là, du U-Sport.
On va suivre ça avec grande attention, tout comme on a suivi ta carrière collégiale, universitaire. Je prends le temps de te remercier des grands moments que tu nous as fait vivre, de l'importance que tu as eue dans la rivalité Montréal-Laval. C'était formidable des deux côtés, de ceux qui prenaient pour toi comme ceux qui avaient le goût de t'haïr. Moi, comme observateur, c'était le fun. J'avais un pas de recul, fait que j'étais capable de regarder ça aller. Mais franchement, autant tu as pu être peut-être considéré comme un genre de bad boy du fait que tu avais une grande gueule, mais je pense qu'en même temps, tu as toujours été très sympathique, très agréable, très disponible. Fait que je te remercie et pour les moments sur le terrain, mais en même temps, les petites conversations qu'on a eues ici et là, ça a tout le temps été facile. Puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de se rejaser un peu et je te souhaite la meilleure des chances pour la suite.
Merci beaucoup. Merci à toi aussi là, pour la couverture que tu fais sur les étudiants athlètes, de mettre de la lumière un peu sur le sport collégial, universitaire que tu fais tout en étant neutre. Je sais qu'il y a des parties d'infos qui t'en veulent parce que tu semblerais pas neutre. Là. Je vois ça passer un petit peu par-ci par-là, mais je pense que c'est une couverture que tu prends à cœur et qui est assez neutre qui met de la lumière sur le sport amateur, là, autant féminin que masculin. Fait que c'est incroyable que ce soit.
Ben, merci beaucoup. C'est vraiment super apprécié. Je te remercie encore d'être passé au podcast. Franchement, une entrevue super agréable. Merci. À très bientôt, mon cher. Puis encore une fois, la meilleure des chances.
Merci. Salut. À bientôt.